BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres. Sans auteur, ils seront nos invités, elles seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos études, nos chiffres. N'oubliez pas notre compte Librairie de l'écho sur tous les réseaux sociaux, c'est la même adresse pour retrouver les références précises de tous les livres qu'on évoque dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. Plongée inédite au cœur de l'entreprise aujourd'hui dans la Librairie de l'écho avec deux approches radicalement différentes qui poussent pourtant à se poser les mêmes questions essentielles. L'entreprise est-elle un lieu d'épanouissement ou d'aliénation, une tragédie ou une comédie, le royaume du mérite, de la sincérité ou au contraire le paradis du mensonge et de la manipulation, un repère de naïfs ou de paranoïaques? Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités qui ont un point commun, des parcours hors du commun. Lucie Carbone, bonjour.
Bonjour.
Lucie, vous avez travaillé en cabinet de conseil dans des entreprises du CAC 40, vous lâchez tout, vous devenez humoriste. Vous faites des spectacles, vous êtes sur France Inter et vous publiez aujourd'hui Bureautopia chez Duno. Maïline Camus, bonjour.
Bonjour.
Maïline, vous êtes juriste, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez embrassé ensuite une carrière militaire, vous avez été officier du renseignement militaire et puis vous avez fondé votre cabinet Prisme Intelligence et vous publiez Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme arme stratégique. Chez Erol, voyez, nous allons osciller en permanence entre paillettes et puis obscurité. Voilà, je commence avec vous, Lucie Carbone. Chaque entreprise a ses règles, ses codes vestimentaires, ses coutumes, son langage, bref, chaque entreprise est presque un pays.
C'est ça. Bah, c'est le principe du livre. C'est une découverte ou une redécouverte du monde de l'entreprise comme si c'était un pays avec ses us et coutumes. Donc, par exemple, la monnaie, c'est la chouquette. Il y a un langage très particulier que j'apprends à décoder. Par exemple, j'arrive à zap. Ça veut dire potentiellement, je ne vais jamais arriver. tout le système un peu des réunions sur les espaces de travail, Airbnb, Open Space, Airbnb, du coup, donc comme si l'entreprise était finalement effectivement un pays qu'on peut visiter ou en tout cas dans lequel on peut voyager en CDD, CDI. Fin...
Alors, c'est un pays, mais vous avez commencé à le dire, c'est quand même aussi une formidable scène de théâtre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a, dans l'entreprise, tout le monde joue un rôle en fait.
Bah, c'est vrai que déjà on y va avec un costume. On a déjà un costume. On sait qu'on a une fiche de poste. On peut avoir des responsabilités. Parfois en réunion, il faut savoir un peu faire illusion. Donc oui, c'est vrai que c'est une scène de théâtre. En plus, chacun a un peu son rôle, quoi. Donc tout le monde essaie de le tenir. Donc c'est ça qui est intéressant à cerner un peu en termes d'humour, un peu le langage décodé. Je sais que par exemple en entreprise, on peut parler moins de manager maintenant que de coach. Les coachs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte cette métaphore avec le sport? Donc je trouve ça intéressant de que le langage, en tout cas notre quotidien aussi, on passe quand même beaucoup de temps aujourd'hui dans les entreprises. Il y a des gens qui voient plus leurs collègues que leur famille. D'essayer de décrypter ça, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire, et en tout cas en rire, quoi.
Alors vous donnez des clés aussi pour bien s'intégrer dans l'entreprise. Comment on fait pour bien s'intégrer dans l'entreprise?
Alors, je pense que c'est très intéressant déjà de cerner la culture d'entreprise. C'est quoi un peu les process qu'on appelle de onboarding? Ça, c'est l'onboarding, c'est un peu l'accueil, on va dire, des nouveaux arrivants. Donc, essayer de capter comment les choses fonctionnent. Je trouve qu'une entreprise, c'est un peu une société dans la société. Essayer de voir comment, c'est quoi un peu, les process, sentir un peu la culture d'entreprise, essayer en tout cas de la discerner et puis essayer de s'y adapter si c'est en cohérence avec ses principes et ses valeurs, quoi. Donc en tout cas, essayer de sentir la culture d'entreprise, parce que c'est quelque chose quelque part qui existe avant nous. Moi, j'ai fait des études quand je suis arrivée en entreprise, je me suis dit ça va être un monde à part, ça va être quelque chose. C'était un Disney professionnel, quoi. Je me suis dit ça va être quelque chose que je n'ai jamais vu, quoi. Et effectivement, c'était quelque chose que j'ai jamais vu. Donc ça a été une découverte. Donc je pense que le livre, c'est aussi c'est une écriture en tout cas que j'ai essayé d'avoir. que de rendre accessible le milieu du travail, de le rendre accessible, de le rendre vulgarisable. Moi, ma mère, elle est à la retraite aujourd'hui, mais maintenant, elle est prof. Mon père était dans le vin. Et donc, c'est vrai que quand je racontais mon quotidien de réunion, de process, d'indicateurs, de KPI, quand je disais, ouais, j'ai fait des task force, enfin, vraiment, ils comprenaient pas, quoi. Donc, j'ai essayé de rendre accessible tout ce que j'ai pu vivre dans les grandes tours, quoi, dans les bureaux.
Et qu'est-ce qui vous a dérouté? Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a ébloui? Et qu'est-ce qui vous a énervé? Qu'est-ce qui vous a indigné?
Alors, ce qui m'a étonné, déjà, c'est un peu de façon assez triviale, le quotidien. C'est-à-dire que je me suis dit, en entreprise, on doit travailler. Alors, c'est vrai qu'on travaille, mais je trouve que, par exemple, mon premier étonnement, ça a été sur les réunions. Je trouvais ça étonnant qu'on termine une réunion, qu'on passe une heure en réunion et qu'à la fin de la réunion, on se soit dit... Bon, ben on va en refaire une parce qu'en fait, on n'a rien décidé, quoi. Donc, au final, on avait les agendas remplis de réunions et je trouvais que ça nuisait de façon assez spectaculaire à la productivité, quoi. Parce qu'au final, quand on enchaîne les réunions, ben, quand est-ce qu'on a l'esprit pour travailler, quand est-ce qu'on échange avec d'autres collègues pour créer des synergies, etc. Donc, je trouve que les réunions, c'est déjà un premier étonnement. Ensuite, ça a été, par exemple, des process. Où je me suis dit, mais alors, c'est quand même assez incohérent. Par exemple, moi, je travaille en informatique, j'ai pu démarrer sur des missions de support informatique, et donc il y avait des gens qui essayaient de me joindre en me disant, bah Lucie, mon ordinateur, il marche pas, est-ce que tu peux m'aider? Bah ouais, mais je suis désolée, il faut créer un ticket. Sauf que, précisément, pour créer un ticket, il faut un ordinateur, quoi.
C'est ça.
Donc, je me suis dit, mince, c'est étonnant, cette adaptation du process à une réalité qui, quelque part, est à côté, quoi. Donc, c'est toute une succession de choses que j'ai vécues où je me suis dit... Ah, c'est marrant, je m'étais dit que l'entreprise, c'était un territoire...
Rationnel,
exactement.
Efficace,
rationnel, ça va rouler. De toute façon, dans les grandes boîtes, il n'y a que des têtes bien faites qui ont surdiplômé. C'est sûr, ça va rouler, quoi. Et j'espère que moi, je vais rouler avec. Et au final, on se rend compte que, bah non, il y a des dysfonctionnements de process. Parfois, on se perd un peu dans... je vous parlais des réunions, on se perd un peu dans les comitologies. Parfois, on a aussi des injonctions contradictoires. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale. En même temps qu'on demande aux gens d'être ultra performants, ultra efficaces. Donc, c'est vrai que parfois, on a des objectifs qui sont un petit peu contradictoires. Et c'est tout ça, finalement, qui m'a étonnée au cours de mes années donc en entreprise et que j'ai voulu restituer dans le livre, quoi.
Ce qu'on se dit aussi, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, plus on va trouver des gens intelligents, brillants, formidables, exceptionnels. Et qu'en fait, la proportion de médiocres et de gens brillants, elle est à peu près la même à tous les niveaux de décision.
Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que, comment dire, il y a un langage aussi. Le langage, moi je sais que j'ai fait du consulting, quand on est en mission de conseil, on sait que cette prestation, elle a un certain coût. Quand un client nous demande où est-ce qu'on en est et qu'en l'occurrence, malheureusement, on n'a pas avancé pour X, Y bonnes raisons, on ne peut pas lui dire qu'on n'a pas avancé. Donc, on essaie de trouver un petit effet, comment dire, au foot, on appelle ça au rugby, la balle dans les 22. On renvoie la balle. Donc, il y a un truc de vocabulaire qui est, voilà, j'ai pas de visibilité, mais je prends le point. Et hop, ça repart un petit peu comme en 40. Donc, je trouve qu'il y a aussi tout un langage qui permet de faire écran, de faire peut-être un peu illusion, ou en tout cas, mine de rien, qui permet de continuer d'exister dans le monde du travail, quoi.
Est-ce que l'humour, c'est un outil de survie dans l'entreprise?
Alors, pour moi, il l'a été. Ouais, pour moi, il l'a été. Moi, c'est vrai que je suis passée par un épisode de burn-out où j'ai énormément observé. Je me suis dit, c'est étonnant que je me sente aussi mal dans une situation où, quelque part, je n'ai jamais eu autant de reconnaissance. Moi, en l'occurrence, j'ai terminé cadre dans les hautes sphères du CAC 40. Donc, d'un point de vue social, c'était, j'y étais arrivée, quoi. Donc, la limite, la prochaine étape, c'était la retraite, quoi. Et paradoxalement, c'est là où je me suis sentie presque en situation de mal-être. Donc, l'humour, pour moi, a été, oui, effectivement, une bouée de sauvetage. Et je trouve que maintenant que je suis sortie du monde de l'entreprise et du travail, c'est toujours un sujet que j'apprécie traiter parce que ça reste un sujet du quotidien et puis c'est un environnement qui est aussi traversé par plein de transformations digitales, RH, aussi écologiques. Donc je trouve que c'est un environnement qui évolue. On ne sait pas avec par exemple l'intelligence artificielle comment ça a évolué. Donc je trouve que c'est un territoire d'observation et d'humour qui est hyper intéressant et surtout l'humour parce que je trouve que c'est aussi un sujet qui est pas forcément beaucoup traité. Moi je sais que j'ai longtemps cherché un peu des films, des sketchs sur le sujet. Je me suis beaucoup rapatriée dans la sociologie avec des gens, des sociologues comme par exemple Dominique Méda qui parle beaucoup du milieu du travail. Et c'est vrai qu'en termes de comment dire d'œuvres un peu culturelles, j'ai pas forcément trouvé grand chose. Et je trouve que pour autant, bah, c'est un sujet vraiment du quotidien, quoi. Donc il y a eu la réforme des traites récemment. On parle quand même des conditions de travail, du milieu du travail. C'est un milieu qui évolue. C'est un milieu dans lequel on passe beaucoup de temps. Donc je trouve que c'est un objet d'humour qui est énorme, quoi.
Est-ce qu'on peut faire confiance dans l'entreprise ou est-ce qu'il faut se méfier de tout le monde?
Alors là, moi par défaut je fais pas confiance parce que je trouve qu'on est par défaut des collègues.
Ouais, voilà.
C'est le cap que je mettrai. Alors ça, c'est vrai qu'en entreprise, on dit souvent qu'on est une grande famille. Moi, pour avoir connu parfois des épisodes de mal-être au travail, j'ai pas vu beaucoup de cousins dans l'open space, quoi. Donc, non, c'est vrai que je trouve par défaut, on est des collègues. C'est un cercle qui est professionnel.
Ah, mais est-ce qu'il y a pas trop de gens qui mettent de l'affectif, en fait, dans l'entreprise?
Si, mais je sais pas si c'est le bon endroit. Je veux dire, moi, je me suis fait des amis en entreprise. Il n'y a pas de souci. J'ai des anciens collègues qui sont toujours des amis. Mais je pense que, en tout cas, ça me paraît plus sain que par défaut, c'est un environnement professionnel. Si on s'y fait des amis et si on y nourrit des relations amicales, je trouve ça chouette. Mais je trouve que, par exemple, tout le discours qui consiste à dire en entreprise, on est une grande famille, on partage tout ensemble, on fait tout ensemble, on a les after work le jeudi et puis le dimanche, on va courir pour les 10 kilomètres. En fait, on ne vit que en entreprise, quoi. Ça, pour le coup, je trouve ça un peu trop. Et je pense sain d'essayer de dissocier l'entreprise, le cadre professionnel, de, au bout d'un moment, passer du temps en famille.
Qu'est-ce qui fait le plus rire dans votre spectacle quand vous parlez d'entreprise? Sur quoi vous sentez que les gens ils se disent « Ah ouais, c'est
vraiment les absurdités de process. Typiquement les tickets. J'avais une blague sur les tickets. Alors c'est marrant les tickets parce que tout le milieu de, on va dire, du théâtre, de l'humour ne comprend pas la blague. Donc je suis un peu un ovni en termes d'humour. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui peut être hyper pénible en entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rendent au travail, ils sont pris peut-être la pluie, les transports. Enfin, ils arrivent déjà là, presque fatigués. L'ordinateur, il est fatigué lui aussi. Il arrive, donc l'ordinateur est en carafe. Là, on appelle le support pour de l'aide. Sauf qu'on nous demande de créer un ticket précisément où l'ordinateur fonctionne pas. Donc ça, c'est le genre de petite de dysfonctionnement de process. Les dysfonctionnements de process, c'est quelque chose qui retient l'attention parce que ça peut être un très fort irritant dans le quotidien de travail, quoi.
Maïline Camus, est-ce que dans les entreprises que vous conseillez, vous constatez aussi ces absurdités, ces process qui finalement alourdissent l'entreprise, l'empâtent en fait, entre guillemets.
Bien sûr, tous ces process vont alourdir la prise de décision, et notamment la prise de décision stratégique.
Alors ça, vous le voyez. Alors je rappelle que quand même, vous avez un parcours dans le renseignement militaire, vous décidez de monter votre entreprise de conseil. Vous arrivez armé de ce bagage militaire, entre guillemets, avec quelle vision, quelle leçon finalement, avec quel bagage vous arrivez dans le monde de l'entreprise?
Alors j'arrive avec le bagage qui est le suivant, c'est que l'anticipation, c'est la clé. Dans le monde de l'entreprise, mais comme dans le monde militaire, ça on l'apprend dès tout petit, mais dans le monde de l'entreprise, l'anticipation des enjeux, des risques, des menaces, ça c'est la clé pour l'entreprise.
Ouais, et vous voyez, alors... Est-ce que vous trouvez que justement les dirigeants d'entreprises en France n'anticipent pas assez, sont presque trop naïfs finalement?
Mais c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on a vraiment un problème de culture. C'est une question de culture du renseignement, culture du risque, culture de l'anticipation des menaces dans l'entreprise. Et cette absence de culture dans la vie et dans la vie de l'entreprise, de la vie du dirigeant, ça va entraîner des vulnérabilités, des failles où là, évidemment, la menace va s'immiscer au risque de menacer l'entreprise.
Est-ce qu'il y a un problème français? C'est-à-dire, vous dites aucune politique d'intelligence économique n'existe en France. Est-ce qu'il y a des pays, au contraire, qui sont à la pointe du renseignement économique?
Bien sûr. On va prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, où là, l'État a travaillé fortement au service des entreprises pour instaurer une culture du renseignement, une culture de l'anticipation auprès des entreprises, a créé des think tanks, intervient dans les écoles pour venir former les décideurs, les dirigeants de demain et s'acculturer à cette culture du renseignement. Finalement, l'État américain a investi énormément pour pouvoir permettre à ces dirigeants et décideurs de demain de pouvoir être armés pour faire face à cette guerre économique qu'on traverse.
Alors vous préférez parler d'ailleurs de renseignement d'affaires plutôt que d'intelligence économique.
Évidemment, c'est quelque chose, quand j'ai commencé dans l'intelligence économique, j'ai eu du mal à définir ce qu'était l'intelligence économique et j'ai trouvé que dans un contexte de guerre économique, celui qu'on traverse aujourd'hui, le mot renseignement, comme dans une guerre létale, comme dans une guerre mondiale, le renseignement existe et donc le dirigeant doit s'armer avec ce qu'on appelle le renseignement d'affaires.
Alors, vous écrivez que certains dirigeants perdent des marchés parce que, en gros, il y a un côté où finalement ils ne veulent pas savoir. Finalement, on a l'impression qu'il y a une sorte de résistance à l'information. À quoi c'est dû ? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas faire l'effort, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face ? Est-ce que c'est un problème d'ego parce que on est convaincu que les convictions, c'est ça qui va vous mener loin ?
C'est difficile pour un dirigeant de savoir ce qu'il ne sait pas et de pouvoir grandir avec cette nouvelle culture qui doit être instaurée parce que la guerre économique aujourd'hui, elle traverse la place internationale, mais elle traverse donc l'intégralité des entreprises françaises. Donc aujourd'hui, c'est une acculturation au risque qui doit arriver et le dirigeant, lui, doit finalement grandir avec ça, s'y adapter. Aujourd'hui, les dirigeants français sont quand même conscients de plus en plus de ce qu'ils traversent et ils ont une volonté. Aujourd'hui, je ne trouverai pas un dirigeant français qui dirait « je n'ai pas envie de savoir ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du renseignement ? Et c'est là où l'importance est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du renseignement qu'on a obtenu et quelle décision on va prendre derrière ? Et ça, c'est être dans la main du dirigeant.
Alors, le problème, c'est que on ne sait pas forcément a priori quelle est la menace qui vous entoure. Alors, vous évoquez une vingtaine de cas dans votre livre. Alors, ça peut être l'entreprise qui voit finalement que toutes ses équipes sont débauchées par un concurrent, c'est effectivement du vol d'innovation. Vous pouvez pas prévenir tous les risques. Donc, est-ce qu'il y a une méthode qui vous permet de mettre en place finalement tout un tas de signaux d'alerte, quel que soit le sujet en fait ?
Mais effectivement, c'est-à-dire de se dire que quand on va prendre une décision qui est stratégique pour l'entreprise, eh bien, il faut se renseigner. C'est ça la clé.
Alors comment on commence par quoi ?
On commence par exemple, je vous raconte une histoire. Je vous raconte l'histoire d'un dirigeant qui décide de s'étendre sur le territoire et pour ça, il va faire appel à un nouvel associé pour le nommer directeur en région. Et ce dernier, il va avoir les clés de la boutique, la réputation de la boutique et un peu aussi les clés des finances. Et avant de signer, il a un bon réflexe, le dirigeant. Il se dit, je vais me renseigner sur l'individu avec qui je vais me marier, finalement.
Bah oui.
La mariée est bien habillée, il a envie d'y aller, le profil est sympa, ils s'entendent bien, tout est ouvert. Mais en dernière étape, il fait appel au cabinet pour venir vérifier. Finalement, on va venir lever le capot de la voiture et voir vraiment comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on mène des investigations et on se rend compte que l'individu avait bien présenté son profil, mais derrière, il y avait de l'usurpation d'identité, il y avait des sanctions, des condamnations. Et finalement, l'intérêt qu'avait ce dirigeant de vouloir s'associer avec mon client, il n'avait pas révélé ses réelles intentions. Et se renseigner, c'est finalement lire le dessous des cartes, comprendre ce qu'on ne voit pas en première intention. Et je rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de ne pas faire forcément confiance à ce qui paraît extrêmement beau et attrayant.
Ouais, alors vous dites aussi, après il y a des choses qui sont plus, j'ai envie de dire, presque plus basiques. C'est-à-dire par exemple, quand vous arrivez sur un marché, quand vous voulez vous lancer sur un marché, la première chose, c'est quand même de connaître vos concurrents, de vous renseigner sur vos concurrents. Ça, c'est le béaba, j'ai envie de dire.
Oui, mais ça, c'est sur le papier.
Ouais.
J'ai envie de dire, les entreprises aujourd'hui, je prends l'exemple des startups françaises qui n'ont qu'une envie, elles, c'est de pénétrer les marchés, de conquérir le monde. Elles y vont le couteau entre les dents. Elles ont de l'innovation, elles ont énormément de savoir-faire, elles développent beaucoup. Et puis après, arriver sur le marché qu'on veut conquérir, on se dit oui, on va se renseigner, mais en surface. Et c'est là où l'erreur arrive, c'est qu'il faut aller en profondeur. C'est un réel savoir-faire, le renseignement. Aller en profondeur, se renseigner sur ce qui se joue vraiment sur le territoire. Finalement, c'est un pays différent, donc les savoir-être, la culture, les pratiques d'affaires, qui sont vraiment les acteurs décisionnaires. Et puis derrière, dans tout ça, quand on va au combat pour aller pénétrer un nouveau marché, on protège ce qui a de la valeur. On protège son savoir-faire. Aujourd'hui, les entreprises françaises, elles doivent absolument protéger leur actif stratégique. L'actif stratégique, ce sont des savoir-faire, des brevets.
Mais toutes ces données, toutes ces informations, c'est des informations qui sont disponibles. C'est tout veut dire tout est légal. Vous les trouvez où? C'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher ces informations?
Alors bien sûr, tout est légal et il faut respecter, quand on est dans un cadre de renseignement d'affaires, on doit respecter le cadre des affaires, donc le droit des affaires. Donc il y a un cadre juridique à respecter, ne serait-ce que pour la réputation des acteurs qui vont chercher le renseignement, mais et surtout pour préserver les intérêts du client. Donc là, il y a un cadre légal et aujourd'hui, vous savez que 80% de l'information est accessible en source ouverte. On a de la chance d'être dans un monde où l'information, elle est partout, elle est accessible, elle est numérique. Aujourd'hui, les gens communiquent sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ne font pas. Eh bien, tout ça est accessible. Encore faut-il savoir où aller le chercher et encore mieux, l'interpréter.
Et donc ça, c'est le métier de qui? Est-ce qu'il faut, dans l'entreprise, créer une cellule d'investigation qui est un métier hybride, en fait, entre le chercheur, le journaliste, le détective privé?
Alors, les savoir-faire du renseignement sont très spécifiques. Alors aujourd'hui, une entreprise stratégique qui a les moyens de déployer une cellule de renseignement économique en interne, je lui recommande de le faire. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui fait le pouls économique de notre pays, c'est souvent des PME et des ETI qui n'ont pas les moyens financiers ni humains d'avoir
une... Est-ce que les grandes entreprises sont plutôt armées?
Les grandes entreprises le sont plutôt parce qu'elles ont ce qu'on appelle une direction de la sécurité, une direction de la sûreté, dans lequel elles vont venir implémenter toutes ces missions de renseignement, d'investigation, où les conseils vont venir faire de la due diligence, de la compliance, selon les enjeux. Mais tout le reste des entreprises françaises, les PME, les ETI, elles n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens humains d'avoir ce genre de task force en interne. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut faire appel à la mission, à des cabinets spécialisés qui vont venir faire des levées de doutes pour elles et gagner du temps.
Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la menace, elle est multidimensionnelle en fait. Elle est multifactorielle. Ça peut être un concurrent, ça peut être même un salarié de l'entreprise, ça peut être un État étranger, ça peut être un cybercriminel.
Et tout ça masqué par une IA. Évidemment, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que les nouvelles menaces économiques ne sont pas celles qu'on a pu définir il y a 30 ans à travers le rapport Martre. C'est celles qu'on définit aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel on grandit, dans lequel on vit et on évolue. C'est des menaces qui sont hybrides, insaisissables et complexes. Et donc, aujourd'hui, elles n'ont parfois pas de visage. Il est difficile de trouver les tenants et aboutissants de certaines menaces. Et aujourd'hui, il faut quand même s'en protéger.
Ça coûte cher.
Ça coûte beaucoup moins cher,
oui, c'est ça,
que de venir réparer. Je vous donne un chiffre.
Ouais.
Aujourd'hui, une cyberattaque pour une PME, ça coûte environ un demi-million. Pour une ETI, c'est 13 millions. Vous imaginez ce coût sur ce type d'entreprise, évidemment. Et un autre chiffre important et marquant, il se passe une cyberattaque toutes les 39 secondes dans le monde.
Et est-ce que, pour en revenir à notre question sur la confiance, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère de méfiance généralisée, quoi? Et est-ce que tout le monde se méfie pas de tout le monde?
Ben, quand on dit et qu'on déclare officiellement que nous traversons une guerre économique, dans le mot guerre, il y a le mot allié et il y a le mot ennemi. Il y a aussi le mot arme. Le renseignement économique est une arme. Et vous savez l'adage qu'on dit dans les services de renseignement, seuls les parano survivent.
Ce qui me frappe dans vos deux livres, en fait, c'est que malgré cette débauche de technologie, malgré cette débauche de process, etc., en fait, toute la réussite de l'entreprise repose sur l'humain, c'est-à-dire la protection de l'entreprise. En fait, le maillon à la fois le plus fort et le plus faible de la protection de l'entreprise, c'est finalement le salarié. Et le maillon le plus fort ou le plus faible de l'entreprise, c'est le capital humain de l'entreprise.
Et effectivement, l'humain est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Mais quand il est formé, quand il est onboardé, comme l'a dit tout à l'heure Lucie, correctement, eh bien, à ce moment-là, s'il est sensibilisé aux enjeux qui pèsent sur l'organisation et qui peuvent peser sur lui, bah à ce moment-là, c'est un allié, c'est un atout de force.
Ouais.
Et c'est lui qui va faire la différence. Parce que entre un ordinateur et une chaise, il y a toujours un humain.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et c'est là Et c'est là le plan fait. Ouais, et puis ça donne du sens aussi. C'est pas ça qui manque aussi.
Moi, je trouve ça plutôt rassurant ce que vous dites sur le fait qu'à la fin, c'est l'humain. Parce qu'on est quand même dans une époque où on vient de parler d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Les deux sujets ensemble, ça fait un peu des chocs à pic, dans le sens où les cyberattaques, maintenant, ça va être de plus en plus facile de les faire aussi grâce à l'intelligence artificielle. Donc le fait de se poser la question, est-ce que quand on en discutait tout à l'heure, quand je reçois un email de mon patron, est-ce que ça vient vraiment de lui, d'avoir cette formation, comme tu dis, cette sensibilité, de se dire, ça peut être faux, ça peut être se poser la question de l'authenticité de ce qu'on reçoit en termes de contenu, un texto, un mail. Je trouve ça plutôt, quelque part, on n'a pas le choix parce que la technologie nous amène ça. Donc le fait de se dire à la fin, l'humain, on a vraiment notre place. En vérité, je trouve ça plutôt rassurant et plutôt sain de se le dire.
On a la main. En fait, finalement, on a la main dessus parce que
d'une façon ou d'une autre, toutes les deux, vous dites finalement la dernière terre d'aventure, c'est l'entreprise, quoi.
Moi, je trouve l'entreprise, alors c'est vrai que j'aime bien la chatouiller, mais je trouve que c'est un sujet qui est super parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois que j'ai démarré là-dessus, l'entreprise, pour moi, c'est vraiment une société dans la société. Elle est traversée par des transformations technologiques. On vient de parler d'intelligence artificielle. Il y a aussi des transformations RH avec les nouvelles générations qui vont aussi arriver, qui n'ont pas forcément le même rapport au travail. Il y a toujours l'enjeu écologique de transformation dont on parle peut-être un peu moins, mais qui est important. Donc, je trouve que, quelque part, l'entreprise, elle est un territoire quelque part où s'expriment aussi ces transformations qui vont arriver peut-être plus globalement dans notre société. Donc je trouve que c'est un super objet en tout cas d'échange et de réflexion.
Et oui. L'aventure que vous vivez dans l'entreprise, elle est aussi exaltante que la vie militaire ?
Tout à fait, parce que c'est une aventure entrepreneuriale, c'est incroyable et je n'oublierai jamais que les entreprises françaises sont des actifs stratégiques pour la France et quand les enjeux de souveraineté sont d'actualité, il est important de remettre au centre du village, que quand même les entreprises créent de la valeur, créent de l'emploi et font rayonner notre pays.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle vos deux livres, Bureautopia, le guide du voyage du monde de l'entreprise, par Lucie Carbone. C'est chez Duno, Maïline Camus, Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme arme stratégique, c'est aux éditions Erol. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons évidemment avec le coup de cœur de la rédaction, mais on retrouve tout de suite nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alter Écho, le magazine. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique attitré. Messieurs, on se penche cette semaine, et vous penchez tous les deux, sur le numéro hommage à Michel Aglietta de la revue de la régulation. Pas Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, à vous l'honneur, parce que Christian Chavagneux, faut dire la vérité, l'école de la régulation, c'est votre famille intellectuelle.
Ça fait partie de ma formation intellectuelle.
Expliquez-nous, parce que je ne suis pas sûr que tant de gens que ça sachent exactement quelle est la spécificité de l'école de la régulation.
Alors, je commence par vous dire ce qu'il y a déjà dans ce numéro, parce que évidemment, on parle de l'approche de la régulation. Ce numéro, c'est une quarantaine de chercheurs qui ont été réunis pour rendre un hommage donc à Michel Aglietta, hors série de la revue de la régulation. Michel Aglietta a disparu il y a à peu près un an. Bon. Et quelques chercheurs qui parlent plus d'eux-mêmes que de Michel Aglietta, mais il reste quand même beaucoup de papiers. J'ai trouvé, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé que c'était une bonne introduction pédagogique. Les auteurs, et les autrices ont fait un véritable effort. C'est une bonne introduction pédagogique à la diversité des travaux de Michel Aglietta, notamment à l'approche de la régulation, dont il est bien sûr le fondateur au milieu des années 70, mais pas que ses approches monétaires et financières, mais aussi son approche écologique, puisqu'à la fin de sa vie, il travaillait beaucoup sur l'écologie. Et on disait souvent, Michel Aglietta, c'est un chercheur qui travaille tout seul. En fait, on s'aperçoit que Régulation et crise du capitalisme, donc son livre de 76 qui ouvre l'approche de la régulation, ça a été discuté chapitre après chapitre avec des gens qui venaient de la direction de la prévision, du Trésor, du Plan, de l'INSEE, et que c'est un travail collectif. On va apprendre aussi que tout son travail sur la finance, il y avait un séminaire mini à l'université de Nanterre, et que tout ça a été discuté en permanence par un groupe de gens. Son gros travail sur la monnaie, c'est avec André Orléans. Son gros travail sur la Chine, c'est avec Huawei. Son gros travail sur l'environnement, c'est avec Étienne Espagne. Donc, il sait. En fait, Michel Guillotin était pas tout seul. Il a toujours été une sorte de chef de troupe, un leader intellectuel. Et tous ceux qui témoignent disent waouh, on était quand même super impressionnés par la puissance intellectuelle d'Aglietta.
C'est quoi l'essence de la pensée intellectuelle de Michel Aglietta?
C'est penser la dynamique du capitalisme. Pourquoi et comment le capitalisme évolue? Alors, si vous regardez l'économie conformiste, mainstream, la doxa, on dit c'est pas le capitalisme qui est intéressant, c'est les marchés. Les marchés, les individus se socialisent par le marché, il y a une offre, une demande, il y a un prix, et puis comme ça, les gens peuvent échanger. Michel Aglietta a dit non, c'est pas les individus, c'est les rapports sociaux qui sont importants. Débat, c'est pas le marché, c'est le capitalisme. C'est pas les individus, c'est les rapports sociaux. Les rapports sociaux sont conflictuels. Sauf que, au jour le jour, ça fonctionne quand même. Les gens, bien sûr, sont en conflit dans les rapports sociaux, mais ça fonctionne. Quelles sont les institutions qui permettent de canaliser les affrontements pour qu'il y ait un régime d'accumulation qui se mette en place? Donc, il en a plein. Il y a la monnaie, l'État, le rapport salarial, la concurrence, et puis les relations internationales. Relations internationales qui est moins bien traité, on le voit encore dans cette série, il n'y a pas un seul papier qui traite vraiment des relations internationales. Il y a l'approche de la régulation en Chine, dans les pays d'Amérique latine, etc. Mais l'approche internationale reste l'impensé de l'école de la régulation. Et donc, ces rapports sociaux qui vont se stabiliser dans ces cinq institutions que je viens de donner, ça va se stabiliser, il y a un régime d'accumulation, mais il y a tout de suite une tension qui va venir, et donc le régime va basculer sur un autre régime d'accumulation. Et la grande question des régulationnistes, c'est une fois qu'on a quitté, qu'il y a eu la grande crise des années 60, 70, 80, dans quoi on est passé d'autre? Et là, Michel Aglietta donnera ses propres réponses.
Jean-Marc Daniel, c'est quoi la place de Michel Aglietta dans le panthéon des économistes français?
Alors moi, ce que je trouve intéressant dans la revue, c'est qu'effectivement, c'est un personnage dont on parle beaucoup. À la fin de la revue, il y a une bibliographie où on recense, ouais, pas tous d'ailleurs, disent les auteurs, les publications de Michel Aglietta, il y en a 40 pages. Et quand on lit effectivement les articles qui sont dans cette revue, on parle en général de deux œuvres, essentiellement, donc de la première, donc Régulation et crise du capitalisme de 1976, dont la dernière édition, j'ai vérifié, remonte à la fin du XXe siècle. On ne réédite plus. Et le deuxième, c'est La violence de la monnaie, qu'il a écrit avec André Orléans, dont nous avons d'ailleurs eu l'occasion de parler ici, puisqu'on l'a réédité, en revanche, là, un peu plus récemment. Et donc, j'ai été frappé par le fait qu'effectivement, d'ailleurs, plusieurs le disent, puisqu'il y a son complice et ami Robert Boyer qui fait non pas l'introduction, mais le premier article. Il y a une introduction, puis qui fait le premier article. Il y a aussi Alain Lipietz, qui est aussi de sa génération. Christian l'a dit, il y a quand même un groupe là qui s'est constitué, qui est autour de la direction de la prévision, de l'INSEE, de toute cette génération, qui a fait l'école polytechnique, administrateur d'INSEE, enfin Lipietz, il a fait le corps des ponts, mais qui a baigné dans le marxisme. Et tous ces gens-là donc vont échanger de façon plus ou moins critique. D'ailleurs, Lipietz est assez sévère avec Aglietta, j'ai trouvé par rapport à ce que je pensais. Mais et ces gens-là, effectivement, ont marqué une époque, mais depuis, il s'est pas passé grand-chose dans leur influence. Il y a d'ailleurs Robert Boyer dit à un moment donné, il y a une jeune génération qui est en train d'émerger, qui a entre 30 et 40 ans, mais les étudiants maintenant connaissent très mal Aglietta, connaissent très mal l'école de la régulation.
Pourquoi cette école de la régulation, elle a essaimé finalement ni à l'étranger, ni dans le temps.
Non, moi, ce que je trouve assez frappant dans tous ces articles et tout ça, c'est qu'effectivement, elle est très franco-française.
En Amérique latine et au Japon, il y a beaucoup de production.
Il y a quelques articles qui évoquent l'Amérique latine. Et surtout, elle est très marquée au départ par le marxisme. Et donc, je pense que la disparition du marxisme en tant que référence est devenue un moyen, effectivement, de remettre en cause tout ce qui avait été le fondement de cette école. L'article que j'ai trouvé le plus... Il y a deux articles que j'ai trouvé très intéressants. Je ne vais pas critiquer les autres, mais il y a celui de Christian de Boissieux, parce qu'il n'a rien à voir avec le sujet. Est-il passionnant? Et Christian Boissieux dit, moi j'ai fait l'agrégation de sciences économiques en même temps que... j'ai passé la même année que Michel Aglietta le concours de l'agrégation, donc je suis assez proche de lui, mais je ne pense pas que je partage ses idées. Il fait un article et dit, je pense qu'il aurait été globalement assez d'accord avec ce que je viens de dire. Mais ça n'a rien à voir avec... Et le deuxième, c'est l'interview d'André Orléans, parce qu'André Orléans intervient sous forme d'une interview. Et effectivement, alors, à mon avis, s'il y a un papier à lire, c'est celui-là, parce qu'il explique bien ce que pense, effectivement, Michel Aglietta, pour répondre un peu à votre question initiale. Il dit bien, c'est un raisonnement collectif et non pas ce raisonnement à partir du consommateur que constitue le raisonnement de l'économie traditionnelle néoclassique. Et c'est surtout le fait que le marché n'est pas le seul mode d'organisation de l'économie capitaliste. Et notamment, le rapport salarial, qu'on présente assez souvent comme un rapport de marché, est un rapport de domination, de conflit. Et donc, la violence est inhérente à ce type de rapport. Exactement. Et donc, ça, André Orléans raconte ça de façon lumineuse. Donc, s'il y a papier à lire, si vous voulez comprendre l'école de la régulation, dans cette revue, c'est le papier d'André Orléans. Après, effectivement, sur les 40 pages, je me dis, mais je vous pose un peu la même question de vous. Qu'est-ce qui reste de ces 40 pages, à part ces deux livres, sur le premier de 76 et la violence de la monnaie avec André Orléans? C'est assez saisissant, comme une pensée à la fois féconde et assez structurée est en train de disparaître.
Et très innovante, en fait. C'est ce dont on s'aperçoit dans le livre, c'est que Michel Aglietta a pensé des choses bien avant que d'autres en parlent. Par exemple, Laurent Cialone nous dit, dès le début des années 90, Michel Aglietta publie des articles et des livres sur les crises bancaires systémiques. On va commencer à en parler dans les années 2000, puis bien évidemment beaucoup après la crise de 2007-2008, mais il y a des papiers d'Aglietta de 90 qui parlent de la crise systémique. Il s'appuie beaucoup sur les travaux de la Banque des règlements internationaux pour montrer que les cycles financiers ont beaucoup d'impact sur les cycles économiques. Il a réfléchi sur l'indépendance des banques centrales, sur, on dit, oh, il y a la confiance dans l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, la confiance dans l'économie? Il y a un papier qui nous explique ce que dit la confiance, etc.
Il n'a pas été pénalisé, Christian, par son approche plus littéraire que mathématique, finalement.
Ah, c'est un polytechnicien, hein. Avec Robert Boyer, vous pouvez lui donner toutes les équations que vous voulez. Juste un outil.
Vous voyez bien qu'il a toujours eu du mal à être adoubé par les économistes mainstream.
Ouais, parce que les économistes mainstream sont des économistes qui, eux, ne raisonnent qu'avec les équations et pour lesquels l'histoire, la sociologie, la science politique et Laurent Cialome et André Orléans disent bien, Michel Aglietta, il est ancré dans les sciences sociales. Et on ne peut pas comprendre l'économie, et on ne peut pas, peut-être qu'on peut comprendre le marché avec les approches conformistes, mais on ne peut pas comprendre la dynamique des rapports sociaux du capitalisme si on fait pas, si on n'est pas ancré dans les sciences sociales. Et là, tout le bouquin montre bien que Michel Aglietta, il est ancré dans les sciences sociales.
Moi, je pense, pour répondre à votre question et pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, effectivement, il est polytechnicien, il n'a pas de légitimité contestable en la matière de mathématiques. Mais il s'est enfermé, à mon avis, dans deux cercles qui sont des cercles qui sont un peu... Le premier cercle, c'est le cercle, je dirais, du marxisme. Et ça, c'est... il est resté, effectivement, ce que montrent assez bien certains articles, alors que le marxisme a évolué, que le marxisme n'est plus ce qu'il était comme référence, ce qu'il était dans les années 70, il a continué à se rentrer dans ce mode intellectuel. Et puis, il a beaucoup travaillé avec ce bloc, donc Séprema, Pincé, tout ça, qui est un petit monde, en fait, et qui n'est pas forcément totalement en adhésion avec le monde universitaire.
Merci, messieurs, à tous les deux, pour ce bel hommage à Michel Aglietta. Allez, on retrouve notre invité de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est plus qu'une étude, cette semaine, c'est un monument et même le 40e anniversaire d'un monument. Ce monument, c'est le rapport Cyclope. Et nous sommes ravis de recevoir le fondateur, le chef d'orchestre du rapport Cyclope, Philippe Chalmin. Philippe, bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Cyclope, c'est les marchés mondiaux, les matières premières, les monnaies, les services, l'énergie, la finance, les commodités. Ça a été un des mots que vous avez été les premiers à vulgariser en France.
On peut même dire qu'on a inventé même le terme de commoditisation, c'est-à-dire la montée de l'instable sur des produits qui ne sont pas forcément des matières premières, mais qui le sont devenus peu à peu au fil de ces 40 ans d'histoire.
Alors, comme je dis toujours, hein, de l'ananas au zirconium, tout sur les marchés mondiaux. Alors ça, c'est l'édition 2026, mais quand même, Philippe Chalmin, moi j'ai grandi avec votre expertise sur les matières premières, vous m'avez tout appris sur les matières premières. S'il fallait tirer un bilan de ces 40 ans de commodité, de marchés mondiaux, c'est quoi les grands enseignements que vous tireriez?
Alors, le grand enseignement, c'est que, ça avait déjà commencé un peu avant, c'est le passage pour tous ces marchés du stable à l'instable. Je dis toujours à mes étudiants que, alors là, c'était début des années 70, lorsque j'étais à leur place, je pouvais aller me coucher, sachant que le lendemain, je retrouverais le dollar, le pétrole, le blé en Europe, la plupart des matières premières exactement au même prix où je les avais laissées la veille. Aujourd'hui, ma seule certitude est que demain sera différent d'aujourd'hui, et cela non seulement pour les matières premières classiques, mais pour bien des nouveaux produits, comme le fer et l'acier, comme toutes les grandes bases de la chimie, etc., etc. Le monde a été gagné par l'instable et il a vécu cet instable. Alors autrement, sur ces 40 ans, je vous rappelle que je ne devais pas être un très très bon économiste lorsqu'on a lancé Cyclope en 86, puisqu'on l'a lancé au début d'une longue période d'une vingtaine d'années, ouais, durant laquelle, soyons très clairs, les matières premières n'intéressaient presque personne, puisque leur prise était déprimée. 86, je vous le rappelle, c'est le contre-choc pétrolier, c'est le moment où l'OPEP, ouais, perd la maîtrise du marché du pétrole, c'est la chute des accords du café et de l'étain, c'est le début de l'Uruguay Round du GATT. Qui a été un des grands feuilletons que nous avons suivis du GATT à l'OMC pendant ces 40 ans. Les 40 ans, ils englobent ce que j'appelle les 30 glorieuses de la mondialisation heureuse. Entre 1990 et 2020, le monde a vécu de nouvelles 30 glorieuses, de la même manière que le premier choc pétrolier avait mis un terme aux 30 glorieuses de l'après-Seconde Guerre mondiale. Là, nous avons vécu 30 glorieuses de croissance économique forte, de révolution technologique, de libre-échange, de chute des barrières un peu partout. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, on a vraiment pu parler d'une sorte d'espace-monde à la Brodel, mais qui cette fois-ci couvrait la Terre entière.
Alors Philippe Chalmin, est-ce que la mécanique des cycles des matières premières, même s'il y a plus d'instabilité, est toujours la même? Moi, vous m'aviez dit un jour, c'était notamment après ces prix bas des années 80, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'offre qui fait les prix. Ce sont les cycles d'investissement qui font l'offre et qui font les prix, c'est pas la demande.
Emmanuel, vous fûtes un excellent élève.
Si j'ai retenu quelque chose, c'est bien ça.
Cela reste totalement d'actualité. C'est vrai que quand nous lançons Cyclope, nous sommes dans une période de contre-choc, marqué en fait par l'arrivée de toutes les nouvelles productions qui avaient été mises en chantier dans les années 70. On va attendre une bonne vingtaine d'années et puis on va connaître un nouveau choc lié certes à l'importance d'une demande nouvelle, celle de la Chine, et puis à l'absence d'investissement dans la fin du XXe siècle. Ce choc, ça a été la période grossièrement 2007, 2012, 2013. Ensuite de quoi? Ben, on a eu un nouveau contre-choc. Mmh. Et puis, quand même, et ça c'est la dernière période, celle que nous couvrons ces 3-4 dernières années, c'est que nous sommes rentrés dans ces années 2020 du 21e siècle, dans une phase de rupture un peu comparable aux années 70, phase de rupture qui commence avec le Covid en 2020, qui se poursuit avec la guerre en Ukraine en 2022, qui se poursuit encore avec Liberation Day et Donald Trump en 2025, et la troisième guerre du Golfe en 2026.
Alors en plus, Philippe Chalmin, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez un petit cadeau à nous offrir. Vous avez, à l'occasion des 40 ans de Cyclope, demandé finalement des auteurs récurrents, parce que Cyclope, c'est des dizaines et des dizaines d'auteurs chaque année, d'écrire sur leur rapport aux matières premières. On retrouve Nicolas Bavresque, Charles Beigbeder, Estelle Brakianoff, Christelle Bory, Sylvie Brunel, Philippe Chalmin, vous forcément, Eric Fotorino, Hubert Védrine, etc., Eric Orsena, Fragments de matière, ça s'appelle.
Oui, nous avons demandé à cette occasion à une quinzaine d'amis, de compagnons de route. Aucun d'entre eux, en réalité, n'a écrit dans Cyclope. Parce qu'autrement, j'aurais été obligé de demander à nos 70 auteurs. Mais j'ai donné une carte blanche à cette quinzaine d'amis pour nous dire en quoi les matières premières en général, ou une matière première en particulier, avait été importante dans leur existence. Alors, Christelle Bory nous parle des métaux, bien entendu. Fotorino nous raconte tous ses démarrages dans le monde des matières premières, puisqu'il en a été le chroniqueur pour Le Monde. Et chacun d'entre eux, un texte court, Hubert Védrine nous rappelle que c'est au travers de Tintin au pays de l'or noir qu'il découvrit le pétrole.
Merci beaucoup, Philippe Chalmin, d'être venu nous voir pour nous présenter donc le Cyclope 2026, mais c'est surtout les 40 ans du rapport Cyclope, et puis avec cette petite pépite, fragment de matière, avec finalement une quinzaine d'auteurs qui nous racontent leur rapport aux matières premières. Et ben, je vais le lire et puis on en fera le compte-rendu dans l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Trois études cette semaine dans cette rubrique. L'INSEE sur la démographie, Le corps sur l'avenir des retraites et l'enquête Merci Prosper sur l'héritage. Que nous dit l'INSEE? Que la population française culminera à 69,8 millions de personnes en 2037 et puis qu'elle commencera à décliner ensuite pour perdre 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. À cette date, la France aura perdu presque 9 millions de moins de 45 ans et gagné presque 6 millions de plus de 65 ans. Dans ce contexte de dépeuplement plus rapide que prévu, il faudra continuer à réformer les retraites, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, pour équilibrer les comptes. Et s'il ne faut jouer que sur l'âge de départ à la retraite, eh bien, il faudra aller jusqu'à 67,6 ans. La bonne nouvelle, c'est que les déficits ne s'accumuleront vraiment qu'à partir de 2045. Donc, il nous reste 20 ans pour agir. D'ici là, nous dit l'étude OpinionWay pour Merci Prosper, eh bien 47% des seniors propriétaires déclarent être sous pression financière. Ils n'ont pas les moyens de boucler leur fin de mois et que ils pourraient finalement être amenés à vendre une partie de leur patrimoine au détriment de leurs héritiers.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et oui, messieurs, dames, elle est de retour dans la librairie de l'écho, notre bibliothécaire historique Stéphanie Collo. Et si elle est là, c'est pour rendre hommage à une personnalité qu'elle connaît, qu'elle admire et que nous avions reçue ensemble dans la librairie de l'écho. Cette personnalité qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est Edgar Morin. Stéphanie, un personnage hors norme.
Hors norme, inclassable, à la fois philosophe, anthropologue, historien, écrivain, sociologue, résistant, pionnier du combat écologique aussi. Il est né en 1921 à Paris. Il a eu 1000 vies dans sa vie, boulimique de savoir. Il s'inscrit à la faculté de droit, d'économie, d'histoire à la Sorbonne, en philo aussi, en sociaux. C'est le père de la pensée complexe. Complexe, il faut l'entendre dans le sens latin du terme, ce qui est tissé ensemble. Plutôt que de séparer les savoirs, il les relie, c'est-à-dire que pour mieux comprendre nos personnes, notre humanité, notre monde, il crée des passerelles entre une multitude de disciplines. Il part du constat qu'on ne peut pas régler les problèmes humains, les grands problèmes humains, écologiques, économiques, sociétaux, à cause de la multiplication des savoirs spécialisés qui segmentent, selon lui, les analyses et qui n'offrent pas de vue d'ensemble. Et c'est pourquoi il élabore cette méthode de connaissance qui traduit la complexité du réel, car, dit-il, l'homme est complexe, à la fois homo sapiens, qui construit, qui raisonne, qui élabore, et homo démence, doué de passion, de folie, de démesure.
La méthode, c'est l'ouvrage, enfin c'est l'ouvrage, plus qu'un ouvrage, c'est l'œuvre qui reste son œuvre phare.
C'est l'œuvre de sa vie, il le dit lui-même. Cette pensée complexe, il la développe dans La méthode, une somme encyclopédique en 6 volumes, écrite de 1977 au début des années 2000-2004. Ça commence par la nature, puis viennent la vie, la connaissance, les idées, l'humanité, l'éthique. Ce concept de pensée complexe, il est présent d'ailleurs dès ses premiers livres, avant d'avoir commencé à écrire La méthode, notamment dans L'homme et la mort, qu'il a publié en 1951, dans lequel il cherche à comprendre les attitudes humaines devant la mort. Et pour cela, il va déjà chercher des connaissances un peu partout, dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, les sciences, l'anthropologie, les religions, mais aussi la littérature et la poésie, qui est très importante pour lui.
Alors, on peut le classer comme quelqu'un plutôt de jamais finalement affilié aux idéologies, toujours libre.
À la libération, il part en Allemagne, il a 24 ans, il devient le chef du bureau de la propagande pour le gouvernement militaire à Baden-Baden. Il parcourt l'Allemagne dans les premiers temps de l'après-guerre et de son occupation par les Alliés. Il veut comprendre en fait l'Allemagne en pleine période de dénazification. Un an plus tard, il en sort le livre « L'an zéro de l'Allemagne ». En 59, il écrit « Autocritique », ouvrage dans lequel il confesse s'être trompé dans son engagement engagement communiste. Il se sonde, il s'analyse pour comprendre comment il a rationnellement choisi d'adhérer à ce parti. Au CNRS, il s'intéressera aussi à la culture de masse, parent pauvre à l'époque de la recherche. Grand cinéphile, il co-réalise Chronique d'un été avec Jean Rouch. J'en avais fait une chronique à l'époque. Et il écrit aussi de son journal de Californie après avoir passé un an là-bas à l'invitation d'une université.
Et il écrira aussi beaucoup sur l'Europe.
Il écrira énormément sur l'Europe, penser l'Europe notamment. C'est un bel exemple de la conquête de l'idée européenne. Au départ, il est plutôt dubitatif, puis finalement, il se convertit à cette idée d'Europe. Pour lui, ce qui fait l'Europe, c'est la conscience européenne, le fait de partager une culture commune sur un territoire commun. L'erreur, selon lui, c'est d'avoir cru pouvoir bâtir l'Union par l'économie. D'ailleurs, quelques années avant sa mort, il confessait dans une émission ne plus y croire. J'ai perdu beaucoup d'espoir dans l'Europe parce qu'elle s'est montrée de plus en plus bureaucratique, technocratique et liée au pouvoir de l'argent. Enfin, leçon d'un siècle de vie, il veut nous aider à trouver notre propre voie en nous racontant la sienne. Sorte de bilan intime et philosophique, et je terminerai par cette phrase. Nous avons beau nous croire armés de certitudes et de programmes, nous devons apprendre que toute vie est navigation dans un océan d'incertitudes à travers quelques îles ou archipels de certitudes où nous ravitailler.
Merci beaucoup Stéphanie Collot pour ce bel hommage à Edgar Morin, qui effectivement restera comme un des phares intellectuels de ce siècle.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, votre ultime sélection pour aujourd'hui.
Alors, je reviens sur un livre qui est paru un peu avant les élections municipales, qui a été écrit par Benjamin Morel. Donc, Benjamin Morel, c'est quelqu'un que l'on connaît bien parce qu'il est assez présent dans les médias. C'est un constitutionnaliste. Et donc, il donnait à l'époque une sorte de vade-mecum, de guide de gestion des municipalités aux maires qui allaient être élus quelques temps après. Alors, maintenant, les maires sont élus. Donc, effectivement, c'est utile de le lire, non seulement pour les maires, mais aussi pour les gens qui les ont élus. Donc, c'est plein de suggestions, d'analyse des enjeux qu'il y a autour de ce que est devenu une mairie, de la façon dont la carte administrative a évolué. Donc, c'est un livre à la fois très concret et très documenté qui mérite notre attention. Et puis, alors, une toute dernière remarque, c'est que le titre, c'est « Un avenir civique à réinventer ». Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui a compris que « citoyen » était un nom et « civique » un adjectif, ça ne peut que trouver mon adhésion.
Christian Chavagneux.
Vous savez que peut-être qu'au moment des élections de mi-mandat début novembre aux États-Unis, les Californiens vont aussi voter pour un référendum sur l'instauration ou pas d'une taxe sur les plus riches, une taxe unique de 5%. Et donc vous avez un document de travail qui vous dit comment a progressé la richesse, combien ils payent d'impôts, est-ce qu'ils vont partir ou est-ce qu'ils vont pas partir, combien ça pourrait rapporter, comment, c'est quoi le mécanisme. Vous avez tout un document de travail.
Mais qui a fait ce document de travail?
Donc c'est trois chercheurs, dont Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.
Ah oui.
Voilà, donc Emmanuel Saez qui est l'instigateur auprès. En fait, c'est un syndicat de soignants qui a dit Donald Trump a coupé les recettes pour les soins. On a besoin de recettes en face, donc on propose une taxe de 5% payable en 5 ans, 1% par an. Et avec quelque chose de très malin, c'est que le principe est sorti fin novembre 2025 et tous les gens qui, au 1er janvier 2026, sont résidents en Californie devront la payer. Donc tous les. Sergueï Brin, la répète, etc., qui disent « si c'est comme ça, on s'en va », tu peux partir, sauf que comme au 1er janvier, tu étais en Californie, tu dois cette taxe. C'est tout le descriptif est là, combien ça peut rapporter. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin de savoir sur cette proposition de taxe.
Le laboratoire californien.
Exactement.
C'est là qu'on avait voté justement l'abolition de la taxe foncière en application du programme d'Arthur Laffaire. Donc
à la pointe de l'innovation, la Californie.
Il est temps que la Californie se souvienne quand même de son passé.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.